Nous avions l'autre fois, la dernière fois, vu le chapitre 16 en voyant tout ce que ça pose au point de vue théologique. Petite scène de ménage assez particulière, jalousie de Sarah par rapport à la servante féconde qui s'enivre de sa propre fécondité. C'est très net. Elle se glorifie d'un don de Dieu. C'est peut-être ça qui fait. Parce que j'y ai réfléchi, il faut y réfléchir, c'est pas commode. On n'a jamais à se glorifier soi-même des dons de Dieu. Or, de fait, la servante qui devient féconde, j'allais dire que c'est une double gratuité. La fécondité est une bénédiction de Dieu, ça vient de Dieu. Et ça, l'Ancien Testament souligne cela très très fort. Or, elle accapare ce don de Dieu pour se glorifier. Elle fait le pan, c'est très net, en face de Sarah. On voit très bien la scène, c'est magnifique de voir ça, c'est extraordinaire. Alors, se glorifiant d'un don de Dieu, elle est dans une attitude qui n'est plus vraie. C'est très vrai que Sarah ne peut pas supporter cela. Je ne crois pas que c'est premièrement parce qu'elle usurpe les dons de Dieu, mais c'est impliqué dedans. Alors, ça explique comment Dieu veut l'humilier. Chaque fois que nous usurpons les dons de Dieu, Dieu veut nous humilier. Ça ne veut pas dire que Dieu donne raison à Sarah, dans son orgueil, mais Dieu veut éduquer Agar. Et on comprend que Dieu veut l'humilier parce que Dieu lui fait une promesse. Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de Yahvé lui dit, je multiplierai ta descendance pour qu'il y ait cette alliance. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ça, c'est la logique de la sagesse de Dieu. La logique de la sagesse de Dieu n'est pas tout à fait notre logique. Hein. Donc, la finalité, c'est quoi? C'est que Dieu veut se servir d'Agar, d'Ismaël, pour réaliser un grand peuple. Je multiplierai ta descendance au point qu'on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. Voilà la finalité. Mais pour que cette finalité existe, il faut que Agar entre dans l'humilité. On ne peut recevoir les bénédictions de Dieu que si on est pauvre. Elle a reçu une première bénédiction de Dieu, elle s'en est enorgueillie. Elle ne pourrait pas recevoir une seconde bénédiction de Dieu si elle ne s'appauvrit, si elle ne se met pas dans l'état d'humilité. Et je crois que c'est ça la signification. Vous voyez, la signification théologique. Parce qu'il y a une signification théologique. Au-delà de cette petite scène de ménage, il y a quelque chose de profond. Et qu'est-ce qu'il y a de profond? C'est qu'on est en présence de deux bénédictions de Dieu. Une première bénédiction, c'est le point de vue de la fécondité. La seconde bénédiction, je multiplierai ta descendance au point qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. Alors, pour que elle n'accapare pas cette seconde bénédiction comme elle a accaparé la première, Dieu réclame d'elle cette humiliation. Et c'est pour donc, et je crois que c'est bien le but de ce passage, tout le but de ce passage, c'est pas l'éducation de Dieu par rapport à Sarah, c'est l'éducation de Dieu par rapport à Agar. Et c'est le mystère d'Ismaël qui nous est révélé. Oui. Donc, si je sais comprendre la finalité profonde de ce chapitre 16, il me donne l'intelligence de cette scène. Et c'est toujours par la finalité que nous devons découvrir l'ordre de la sagesse de Dieu. Nous, nous sommes tentés de regarder au point de vue psychologique. Alors, au point de vue psychologique, ça devient aberrant. On ne comprend pas du tout. C'est comme si Dieu donnait raison à une jalousie. Dieu ne peut pas donner raison à une jalousie. Sarah mal agit, c'est bien évident, elle s'est laissée prendre. Mais Agar n'a pas bien agi. C'est la guerre à l'égard de deux personnes qui ont mal agi. Et l'une a envenimé la situation. C'est très très net. Or, Dieu ne donne pas raison à Agar, mais ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est la bénédiction qu'il donne à Agar. Oui, Dieu ne bénit pas Sarah, mais Dieu va bénir Agar. Et donc, si Dieu bénit Agar, c'est pour nous faire comprendre que pour qu'elle soit capable de recevoir cette bénédiction, il faut qu'elle s'humilie. Il me semble bien que c'est cela que nous devons comprendre de ce chapitre 16. Quand Abraham fut âgé de 99 ans, il devait être encore jeune, c'est dommage qu'on n'a pas sa photographie, mais ça. Yahvé apparut à Abraham et lui dit, « Je suis El Kadai, marche devant moi et sois parfait. Je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Donc, il y a la bénédiction pour Agar, et ici, la bénédiction pour Abraham. Abraham tomba sur sa face. Vous voyez la petite liturgie importante. Hein? Quand nous entrons au cœur, nous tombons sur notre face. Hein? Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en ces termes. Quand on tombe sur sa face, Dieu aime bien de nous parler. Voici que mon alliance est avec toi et tu viendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, et ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Donc c'est Dieu qui change le nom. Père de la multitude, c'est ça que ça veut dire. Abamon. Donc ça veut dire père de la multitude. Car je te fais père d'une multitude de nations. Je te ferai fructifier à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi dans toutes ces générations, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi le pays de tes pérégrinations, tout le pays de Canaan, en prospérité perpétuelle, et je serai leur Dieu. Enfin, c'est très intéressant, cette question-là, de voir cette alliance qui prend alors, voyez, ce serait intéressant, vous pouvez le faire facilement, de regarder la progression qu'il y a dans les alliances. Les alliances sont successives. Voyez la différence avec Marie. Puisque Abraham et Marie doivent toujours se regarder en parallèle, hein, puisque c'est les deux grands modèles de la foi, Abraham et Marie. Abraham est père de la foi, Marie est notre mère dans la foi. Alors, il est intéressant de voir les deux et l'éducation de Dieu sur Abraham au point de vue de la foi. Et cette éducation porte toujours sur une promesse. Mais la foi est liée à la promesse, hein, pour Abraham. Et parce que la foi est liée à la promesse, il y a une promesse qui se fait de plus en plus nette, de plus en plus précise. Et c'est en ce sens-là que la foi d'Abraham doit s'expliciter de plus en plus. Marie, sa foi porte sur une présence, sur un don. Et c'est pour ça qu'immédiatement sa foi est contemplative. La foi d'Abraham n'est pas contemplative dès le point de départ. C'est la foi liée à l'obéissance. C'est la foi liée à l'espérance, liée à la promesse, une foi qui devient de plus en plus explicite. Je te donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays de tes pérégrinations, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Ça, c'est un texte qui a été interprété de multiples manières, et c'est intéressant, on y reviendra peut-être, parce que c'est très intéressant de voir ça. Que signifie cette promesse à Abraham? C'est quand même très fort. Dieu dit à Abraham, et toi, c'est une alliance, donc il y a toujours une réciprocité. Dieu promet une alliance perpétuelle et la terre de Canaan. La terre de Canaan est promise à la descendance d'Abraham et à la descendance d'Abraham. Dieu dit à Abraham, et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations. Observez, l'alliance faite à Abraham, c'est quelque chose de plus fondamental que l'alliance dans la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que de fait, on a ramené tout à la loi. Alors qu'il y a une alliance première qui est celle avec Abraham. Et ça, ça explique des quantités de choses. Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance, après toi, dans toutes ces générations. Et voici mon alliance que vous observerez entre moi et vous, et ta descendance après toi. Tout mâle chez vous sera circoncis. Vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce. Et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle chez vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou acquis à prix d'argent de n'importe quel fils d'étranger qui n'est pas de ta race. Vous voyez comme c'est intéressant. La circoncision dépasse la question de la race. Et c'est ça, je crois, l'alliance avec Abraham. Quelque chose de très très net, hein, c'est dit textuellement. Tandis qu'après, on va réduire au peuple d'Israël. Alors que ce n'est pas ça, l'alliance fondamentale avec Moïse, avec Abraham. Qu'il soit né dans ta maison, c'est-à-dire de ta race. Ou à qui a pris d'argent. À qui a pris d'argent, c'est les esclaves. De n'importe quel fils d'étranger qui n'est pas de ta race. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis de ton argent. Et mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Alors, le signe de l'alliance, hein, le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Pour toute la théologie des sacrements, tous les pères de l'Église ont vu ceci comme quelque chose d'extrêmement important. Parce que tous les théologiens, tous les pères de l'Église et les théologiens du Moyen-Âge ont toujours fait le parallélisme entre les signes de l'ancienne alliance et les signes de la nouvelle alliance. C'est-à-dire les sacrements de l'ancienne alliance et les sacrements de la nouvelle alliance. L'incirconcis, le mâle qui n'aura pas été circoncis dans la chair de son prépuce, cet homme-là sera retranché d'entre les siens. Il a rompu mon alliance. C'est dit avec force que c'est cela qui constitue le point de vue du signe de l'alliance, donc qui montre jusqu'où va l'alliance, qui montre bien que l'alliance dépasse le point de vue uniquement de la descendance selon la chair et le sang, mais que l'alliance implique le mystère de la foi. C'est la foi en la promesse. C'est ça le point de vue de l'alliance. C'est la foi en la promesse. Promesse faite à Abraham et à sa descendance. Et la foi en la promesse va impliquer un signe qui est comme un sacrement. Parallélisme entre la circoncision et le baptême. Toujours. les pères de l'Église ont toujours fait le parallélisme entre la circoncision et le baptême. Nous essaierons de comprendre. Dieu dit à Abraham, Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Saraï, mais son nom est Sarah. Oui, c'est très curieux, d'un côté on le rallonge et de l'autre côté on le diminue. Hein. Ça fait partie justement de donner la signification à ces mots et mieux comprendre ce que signifie chacun de ces mots pour mieux saisir la signification. Mais son nom est Sarah, je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuple viendront d'elle. Donc, une promesse au-delà de toute espérance humaine. Vous voyez, alors ça c'est très intéressant à bien comprendre. Hein. Le double dépassement de la foi par rapport à la prudence. Nous avons vu le premier dépassement. Abraham a dû quitter tout son pays. Il a dû quitter la ville d'Our pour aller vers la terre promise. Second dépassement, c'est que Abraham doit croire qu'il aura un fils de Sarah, alors que normalement Sarah ne doit plus avoir d'enfant. Elle a été stérile et c'est terminé. Et Abraham doit croire en cette nouvelle promesse. Et c'est les deux épreuves de la foi. Il y a toute une série d'épreuves de la foi. La foi doit dépasser la prudence. Si notre foi ne dépasse pas notre prudence, ce n'est plus une foi surnaturelle. Ce n'est plus une foi théologale. Donc vous voyez, elle dépasse de beaucoup toute notre psychologie. Hein. La psychologie ne contient pas la foi. La psychologie ne contient pas la prudence. Et la foi est au-delà de la prudence. Vous avez donc toujours à maintenir ces niveaux. Le niveau psychologique, on le connaît bien aujourd'hui. Le niveau de la prudence, le niveau de la foi. La foi est un au-delà, un dépassement des croix. Et ça, c'est très très important. Alors, vous voyez, quand vous faites votre examen de conscience au niveau psychologique, c'est pas beaucoup. Ça ne signifie pas grand-chose. Si savoir si c'est positif ou négatif, hein. Ouais, très bien, c'est très important pour le travail. Mais c'est pas. Et puis peut-être pour votre voisin, votre voisine, c'est très important ça. Savoir si vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Ouais. C'est sûr, c'est du niveau psychologique. La prudence, un examen psychologique, un examen moral. Au niveau de la morale. La morale, c'est au-delà de la psychologie. Eh bien, l'examen de la morale, si c'est prudent ou imprudent. Si j'ai fait un acte imprudent, alors il y a eu une catastrophe. Parce que c'est comme ça que se font les catastrophes. C'est quand il y a une imprudence. On n'a pas fait assez d'attention. Alors il y a eu une imprudence. Eh bien, il peut y avoir une imprudence au niveau prudentiel et pas toucher du tout la foi. Mais il faut comprendre que la foi assume la prudence et que la foi assume la psychologie en laissant quelquefois notre psychologie délabrée. Il ne faut pas croire que la foi porte une colle pour coller toute la psychologie qui ne va plus, pas du tout. Elle est au-delà de toutes les fêlures psychologiques. Et Dieu quelquefois permet une fêlure psychologique pour rendre la foi plus héroïque. Parce que la foi est liée à l'espérance. C'est liée à la promesse. C'est évidemment beaucoup plus difficile d'adhérer à la promesse quand notre psychologie est délabrée. Et donc c'est pour permettre à la foi d'être plus pure. Donc vous voyez bien ce petit schéma, hein, c'est très important pour nous. Et c'est ce qui nous est montré. Nous essayons de nous servir, hein, de ce qui nous est donné là pour avoir une lecture théologale de l'histoire d'Abraham. Donc, la psychologie ne peut jamais atteindre la prudence ne peut jamais atteindre la foi. Mais la foi assume la prudence et la foi assume la psychologie. Mais cela ne veut pas dire que parce que je suis croyant, j'ai la prudence. La prudence, ça s'acquiert. Ça s'acquiert, la prudence. Et ça met du temps. Il faut être attentif. Il faut un peu d'éducation, de la volonté. Et puis l'intelligence, c'est plus simple. Et puis, ça ne veut pas dire non plus que la foi va tout de suite nous donner une psychologie équilibrée. Non, notre psychologie est de naissance déséquilibrée. Elle a trois jours de féminine. Les conséquences du péché. C'est pour ça qu'au niveau psychologique, vous ne pouvez pas discerner au niveau psychologique ce qui provient du péché et ce qui provient du mal de Dieu. C'est pour ça que l'examen psychologique ne nous dit pas ce qui provient des conséquences du péché et puis ce qui provient de l'image de Dieu qui est en nous. C'est impossible. La morale fait le discernement. Et la foi, d'une façon encore beaucoup plus aiguë. Donc ça, il faut bien saisir ces niveaux différents. Parce que vous comprenez que vous pouvez avoir un examen de conscience. Vous pouvez avoir un examen de conscience psychologique. Vous pouvez avoir un examen de conscience morale. Vous pouvez avoir un examen de conscience au niveau contemplatif. C'est la foi. Et cet examen de conscience au niveau contemplatif va assumer l'examen de conscience morale, parce que je vais faire attention, est-ce que j'ai manqué de prudence? Puis je m'arrêterai là. De temps en temps, je pourrais me taper une courbe au niveau psychologique, mais pas trop. Vous voyez? C'est important de voir ça. Il y a trois espèces d'examens. Philosophiquement, on peut faire un examen psychologique. Quand vous faites de la philo, c'est pas mauvais faire un examen psychologique. Au point de vue humain, je vous fais pas des tests, je sais pas. C'est intéressant de voir un tout petit peu si nous avons la psychologie de quelqu'un qui est plus ou moins délabré dans sa psychologie, et qui, de fait, de jour en jour, arrive à acquérir une psychologie plus équilibrée. C'est secondaire. Donc, voyez bien ici. Hein. Je la bénirai, et même je te bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuple viendront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Il dit dans son cœur. Il n'y a pas que le rire de Sarah, il y a d'abord Abraham qui a ri. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'Isaac, c'est le fils du rire. Le rire d'Abraham et le rire de Sarah. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Il dit dans son cœur. Elle tombe sur sa face pour se cacher, parce qu'il faut qu'il rit. C'est... On ne peut pas rire en face de Dieu quand même. Non, c'est impossible. C'est pour se cacher de Dieu. Est-ce qu'un homme âgé de 100 ans, il peut naître un fils? Et Sarah, une femme âgée de 90 ans, peut-elle enfanter? Abraham dit à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant ta face. Ah, il aime bien Ismaël, hein? Ça fait comprendre comment même la jalousie de Sarah n'a rien touché au cœur du Père. C'est très beau, ça. Si seulement Ismaël pouvait vivre devant ta face. Mais Dieu dit, pas du tout, c'est Sarah, la femme qui t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance perpétuelle, pour être son Dieu et celui de sa descendance après lui. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Il a fait déjà la promesse avant, mais c'est bien la prière d'Abraham. Je t'ai entendu. Voici que je le bénirai. Je le ferai fructifier et le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Et mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que t'enfantera Sarah à cette époque l'an prochain. Ayant achevé de parler avec lui, Dieu remonta d'auprès Abraham. Oui, ça c'est l'anthropomorphisme merveilleux. On voit Dieu qui part sur un char d'assaut, n'est-ce pas ? Il remonta d'auprès d'Abraham. Il s'en va. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qui avaient été acquis de son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce, ce jour-là même, selon ce que Dieu avait dit. Oui. L'obéissance, la foi liée à l'obéissance, liée à ce signe d'appartenance à Dieu. Abraham était âgé de 99 ans quand il fut circoncis dans la chair de son prépuce. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans quand il fut circoncis dans la chair de son prépuce. Ce jour-là même furent circoncis Abraham et Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans la maison ou acquis à prix d'argent, d'un fils d'étranger, furent circoncis avec lui. Alors vous voyez, ça c'est très très beau, parce qu'on voit l'alliance qui se réalise et qui réclame un signe sensible dans la chair. Vous voyez, comme le mystère de l'incarnation est annoncé. Cette alliance s'accomplit dans la chair. Cette alliance doit se réaliser jusque-là. Dans la chair, pour montrer l'appartenance avec Dieu et l'appartenance plénière avec Dieu. Et au moment où Dieu réclame ce signe, Dieu fait comprendre quelque chose de nouveau, que cette alliance n'est pas seulement l'alliance avec Ismaël, c'est pas seulement l'alliance avec la servante, c'est l'alliance avec Sarah elle-même. Et Dieu montre son choix de prédilection, tout à fait gratuite. Il y a un fondement, si vous voulez, parce que c'est normal que le fils de Sarah passe devant le fils de Dagar. C'est normal que le fils de la femme libre passe avant le fils de la servante, comme dit saint Paul. C'est normal. Mais c'est aussi, et c'est manifesté aussi avec beaucoup de netteté, c'est le choix de Dieu. Parce que ça, dans l'Ancien Testament, surtout dans la Genèse, il nous est montré constamment ce mystère de prédilection. Hein, le grand mystère de la prédestination qui est révélé. On touche au mystère de la prédestination. Il y a un amour de Dieu pour Ismaël, mais il y a un amour de Dieu particulier pour Isaac. Isaac passe avant. Bien qu'il soit second. Vous voyez la manière dont Dieu tisse ce point de vue de l'économie divine. Ismaël et les 13 ans. Ça correspond à quelque chose, 13 ans. Ça correspond à quelque chose d'important, puisque c'est à partir de ce moment-là que le fait Ismaël commence à être un homme. Il va du côté de son père. Oui. Alors la jalousie n'existera plus, vous voyez, puisqu'il va être du côté de son père. Tout ça est vu, n'est-ce pas ? Il y a eu une période de lutte, de purification. Les 13 ans passent avec sa mère. Et pendant qu'il est avec sa mère, on voit très bien, Sarah louche tout le temps. Il va être relié à Abraham à partir de 13 ans. Donc, ça soulage Sarah. C'est évident. C'est vraiment le fils d'Abraham. Ça, c'est sûr, c'est le fils d'Abraham. On verra des petites histoires encore qui vont se faire. Hein. Mais ça ne fait rien. On souligne ça. Parce que c'est sûr, ça va continuer. Alors, ce qui est important à souligner, Ismaël est l'aimé. Isaac, il est calé. Il vient après. Et c'est le cadet qui passe devant. Il passe devant l'aîné. selon une loi constante qu'on retrouve dans toute l'économie divine. Il faudra comprendre la signification de cette loi. Le Benjamin, hein, fils de ma droite, c'est ça le Benjamin. C'est le fils de ma droite. Alors, il passe devant l'autre. Alors, ici, on comprend. Il y a une petite raison très nette. C'est comme Isaac, il est fils de la femme libre. Tandis qu'Ismaël, il est le fils de la servante. Alors, on comprend. Il y a quelque chose là qui fait saisir que l'un est beaucoup plus relié à Abraham directement. Il est relié, ils sont beaucoup plus libres. Donc, dans un amour plus libre, il est plus proche du cœur d'Abraham, parce qu'il est le fils de la femme libre, de celle qu'Abraham avait choisie. Tandis qu'au contraire, Ismaël, c'est le fils de la servante. C'est le fils de la servante parce qu'il n'y avait pas de fils de la femme libre. Alors, il s'impose de cette manière-là. Il pénètre de cette manière-là, c'est imposé un peu, mais c'est pas la liberté de l'amour. Alors on comprend à ce point de vue-là, mais c'est intéressant de voir que déjà vous voyez que le cadet passe devant les démons. Il est là pour saisir le choix de Dieu. Et nous voyons que tous les deux reçoivent une bénédiction de Dieu. Et tous ont la circoncision. Ismaël a la circoncision. Il fait donc bien partie de l'alliance fondamentale. Puisque il a la circoncision. Il est lié à Abraham. Il fait partie de la descendance d'Abraham. Chapitre 18. Alors ça, c'est directement chapitre 18. C'est le prolongement du chapitre 17. Abraham, Yahvé apparut à Abraham à la chenée de Mamré. Alors ça, c'est un texte très très important qu'on doit souvent relire parce qu'il est quand même très très beau. C'est la première apparition, la première annonciation. C'est la première annonciation qui commande toutes les autres et qui éclaire l'annonciation faite à Marie. Bien évident, pour ceux qui disent que Marie n'a pas eu du tout le sens de la très sainte Trinité à l'Annonciation, mettez en présence ce texte. Alors il est clair. Non, c'est bien évident, si on comprend un tout petit peu la manière dont Dieu veut nous éclairer. Yahvé apparut à Abraham à la chênée de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, en pleine chaleur du soir, du jour. Ayant levé les yeux, on voit très bien, il n'est pas très éveillé en pleine chaleur de jour, hein. Il fait sa sieste. Vous voyez, la sieste, c'est pour attendre que le Seigneur vienne. C'est merveilleux, ça. Mais le repos plénière, et il y a quelqu'un qui vient, ayant levé les yeux. Voilà qu'il vit trois hommes debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre. Et se prosternant à terre, il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, faites le parallélisme avec l'Annonciation. Hein. Et vous voyez toutes les différences. Parce que ça, c'est très intéressant. Alors, ça s'éclaire mutuellement. C'est tellement. Les deux sont parallèles. Vous voyez, si j'ai trouvé grâce, la salutation à Marie pleine de grâce. Hein. Vous retrouvez ça. C'est... Et si Abraham demande, hein, il fait cette demande, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de ton serviteur. Marie pleine de grâce, Dieu ne se contente pas de passer très près, mais il veut demeurer. Et cette demande d'Abraham, hein, elle existe, elle enveloppe le mystère de Marie. Hein. Elle enveloppe le mystère de Marie. Marie est fait la continuité. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors voyez, là, c'est le mystère de la foi lié à la demande. Donc il y a une prière. On a vu le mystère de la foi lié à l'adoration, lié à la promesse, lié à l'obéissance. Ici, c'est la foi liée à la demande. Donc, Abraham a reçu une promesse. Il sait que cette promesse, elle ne peut pas se réaliser sans que Dieu soit là. « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau, lavez-vous les pieds, puis étendez-vous sous l'arbre. » C'est beau de dire ça à Dieu, hein ?« Lavez-vous les pieds. » C'est extraordinaire, ça. C'est merveilleux. C'est Dieu qui est là, présent, d'une façon énigmatique, mais c'est une présence de Dieu qu'on apporte un peu d'eau. Alors, c'est l'empressement de cet homme. Il veut faire le mieux possible pour cette présence mystérieuse des trois. Hein, quand on verra Abraham, on lui demandera un tout petit peu, hein, qu'est-ce qu'il a vécu là. Et vous verrez qu'il a vécu beaucoup plus que tout ce que nous pouvons dire. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'il y a quand même une très grande foi dans Abraham. Donc, il a dû vivre une expérience mystique et très étonnante du Dieu unique et trois. Qui l'a saisi profondément. Hein. C'est vraiment une expérience mystique, ça. C'est dit, du reste, on voit l'empressement, dès qu'il les vit. Alors, il y a un charisme, si vous voulez, c'est sûr, il y a une vision, mais il y a une expérience intérieure. Hein. Et c'est ça qui est important. L'aspect visible et secondaire, ce qui est intéressant, c'est l'expérience intérieure qu'Abraham a vécue. Il a vécu d'une présence de Dieu, et d'une présence de Dieu 1 et 3. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau, lavez-vous les pieds. Puis étendez-vous sous l'arbre. Je vais prendre un morceau de pain. Réconfortez-vous, réconfortez votre cœur. Ensuite, vous passerez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. C'est plein d'humilité, c'est plein de générosité. C'est naïf. Et la naïveté de ce cœur de vieillard. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Il y a ça ici, une naïveté prodigieuse. Cet homme qui a des mœurs très profondes d'accueil, accueillir Dieu. C'est comme quelque chose d'accueillir Dieu. Et il est là en attente pour accueillir Dieu. Alors, il faut faire le mieux possible. Et comme on ne sait pas encore très bien comment on accueille Dieu, ben, on l'accueille comme on accueillerait quelqu'un qui aurait besoin de nous. Si on accueille quelqu'un, c'est parce qu'il a besoin de nous. Alors on lui lave les pieds, on va lui donner un morceau de pain avec quelque chose à côté, tu vois. Et puis, pour qu'il puisse refaire ses forces et repartir, c'est très touchant de voir qu'est-ce que c'est que l'accueil. Hein. Parce que ça, c'est un très très beau... très beau lieu pour comprendre ce que représente dans la foi le fait d'accueillir Dieu. Marie a accueilli Dieu. Et dans l'oraison, nous accueillons Dieu. L'oraison, c'est l'accueil à l'égard de Dieu. Alors dans cet accueil, il peut y avoir une prière de demande, mais c'est l'accueil. Notre cœur s'agrandit à la dimension de Dieu. Pour que Dieu puisse venir. Et on offre à Dieu le meilleur de son cœur. On veut donner à Dieu tout, on se précipite, hein, l'ayant vide, se précipita en demandant, passez pas loin. C'est bien ce que nous demandons à l'oraison. Hein. Nous disons à Dieu, ne passez pas trop loin, parce que vous venez un tout petit peu vous reposer. Je vous laverai les pieds, je vous donnerai un petit morceau de pain, je ferai tout ce que je peux pour faire le mieux possible. C'est beau, ça grand. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, « prends vite 3 séances de fleurs de farine, pétris et fais des galettes. Puis Abraham courait, elle était en train de faire la vaisselle, hein, très bien. Elle était occupée à autre chose, et puis elle a fait recommencer. C'est le surcroît du travail qui est donné, mais qui est donné, qui est commandé. Hein. Prends vite 3 séances de fleurs, de farine, pétris et fais des galettes. Puis Abraham courut au robétail, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait, ainsi que le veau qu'on avait apprêté, plaça le tout devant eux. Et tandis qu'il se tenait près d'eux, sous l'arbre, ils mangeaient. Vous voyez, ce maître qui devient serviteur, la pensée au lavant des pieds, c'est sûr, il y a des liens avec le lavant des pieds. Il y a quelque chose, si vous voulez. Le premier lavement des pieds, c'est celui-là. Hein. Laver les pieds à Dieu, c'est bien. Quand on lave les pieds aux frères, en entrant dans la communauté, on lave les pieds de la très sainte Trinité. De beau, là, ça prend quelque chose de grand. C'est vrai, on voit très bien les liens qui existent. Tandis qu'ils se tenaient près d'eux, sous l'arbre, ils mangeaient. Il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est dans la tente. C'est aussi des mœurs tout à fait, on voit très bien, les hommes qui reçoivent les hommes, hein, Sarah est dans la tente, mais elle est très attentive. Hein. Il dit, je reviendrai chez toi et à pareille date, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Alors voyez, là encore, hein, la manière merveilleuse dont Dieu agit. D'abord la promesse, puis on est dans l'ordre de l'exécution, tout proche. Mais il y a d'abord eu la promesse. Et puis, Abraham, il a d'abord ri une première fois. Dieu n'a pas fait d'observation. Parce que le rire d'Abraham, il se cachait. Il se mettait par terre, donc il se mettait dans l'humilité. Mais Dieu l'a préparé. Je reviendrai chez toi à pareille date, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente. La discrétion n'était pas encore venue, n'est-ce pas ? Elle écoutait ce qui pouvait bien se passer derrière. Et elle était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, on l'a déjà dit, hein. Et Sarah avait aimé. Ça, c'est tout à fait dit. La Bible répète indéfiniment les circonstances. Et ça, c'est le rythme qui est beau, du reste. Parce que pour qu'on comprenne, on a de la peine à comprendre. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Sarah rit en elle-même. En disant, maintenant que je suis usé, aurais-je du plaisir, alors que mon Seigneur est vieux ? Il avait dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je puis enfanter, alors que moi, je suis devenu vieille ? Curieux que Dieu n'a pas fait d'observation à Abraham, il en fait une à Sarah. Alors, est-ce que Dieu est plus exigeant à l'égard de la femme qu'à l'égard de l'homme ? Est-ce que Dieu réclame de la femme une foi plus immédiate qu'à l'égard de l'homme ? Est-ce que Dieu respecte davantage la prudence de l'homme ? Et à l'égard de la femme, il veut qu'il y ait quelque chose de plus immédiat ? Hein ? On peut gloser de cette manière-là. Est-ce que vraiment je puis enfanter alors que moi, je suis devenue vieille ? Y a-t-il rien d'impossible pour Yahvé ? Alors ça, c'est très intéressant, parce que vous retrouvez le même mot dans l'ange Gabriel. Alors c'est très intéressant parce que nous voyons que l'Ancienne Alliance comme la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, dans ce qu'elle a de tout à fait particulier, c'est Isaac. Vous voyez, l'Ancienne Alliance a dans Abraham, Ismaël et Isaac. Et c'est important de comprendre ça. Et je crois que c'est une clé très importante à comprendre. Que dans l'Ancienne Alliance, qui est faite avec Abraham, il y a les deux. Et qu'on ne peut pas supprimer celle-là. Et le jour où on supprime celle-là, on ne comprend plus celle-là. Si vous supprimez la première, vous ne comprenez plus l'autre. Parce que c'est le plan de Dieu. Il y a quelque chose de particulier, il faut comprendre. Il y a les deux. Quand on est deux à avoir, une bénédiction, on l'accapare moins facilement. C'est toujours difficile, c'est quand on accapare les bénédictions. Accaparer la grâce, c'est faire que la grâce à partir de là pourrit. Parce que c'est nous qui l'accaparons. Et alors Dieu a voulu qu'il y ait cela. C'est sans doute pour cela. Il y a des raisons à cela. Et on n'a pas le droit de ne pas le regarder. Parce que l'alliance avec Abraham implique les deux. Il y a un ordre voulu par Dieu. Et c'est évident que c'est ici. C'est ici l'alliance dans ce cas-là de plus. Le premier, si vous voulez, c'est le secret. Le secret, c'est auprès d'Isaac. Et on voit bien, l'orchestration de la naissance d'Isaac prend une ampleur étonnante comparativement à l'annonce de la naissance d'Ismaël. Puisque c'est la très sainte Trinité, les trois.